Une terre grasse et pleine d'escargots, je veux creuser moi-même une fosse profonde où je puis à loisir étaler mes vieux os et dormir dans l'oubli comme un requin dans l'onde. Je hais les testaments et je hais les tombeaux. Plutôt que d'implorer une larme du monde vivant, j'aimerais mieux inviter les corbeaux à saigner tous les bouts de ma carcasse immonde. Ô ver, noir compagnon sans oreilles et sans yeux, voyez venir à vous un mort, libre et joyeux. Philosophe viveur, fils de la pourriture, à travers ma ruine, allez donc sans remords. Et dites-moi s'il est encore quelque torture pour ce vieux corps sans âme et mort parmi les morts. Ouvrir un spectacle comique par du Baudelaire. Ah, on sent un petit peu le niveau du bonhomme. Merci le Casino de Paris, je suis content que vous soyez là. Merci infiniment le Casino de Paris, ça représente énormément pour moi. C'est Miss Tinguette, c'est Gainsbourg, et maintenant c'est moi. La trinité du music hall, enfin réunie. Merci donc d'être là pour ça. Pourquoi j'ouvre comme ça par du Baudelaire, sur une musique de Schubert, La jeune fille et la mort? Eh bien, c'est que je me dis que tout ce qui va arriver après a de bonnes chances d'être plus drôle que le départ. Vous voyez, c'est ça que je me dis. Baudelaire, c'est pas le type le plus fun qu'on connaisse. Baudelaire, c'est l'inventeur du spleen. Je sais pas si on a des très jeunes dans la salle. On a du 12-13. Hier, on avait du 12-13. Tu peux m'allumer un tout petit peu? Non, ça va pas très... T'as hésité à dénoncer. Là, il y a du jeune là-bas, non? Non, non. Pas un jeune dans la salle. Ah, ça c'est la France que j'aime. Elle a dénoncé son voisin. Très bien, merci beaucoup. Ça me touche énormément. Et je vois, à quel âge il a? 15. Bon, on est entre deux, ça va. Mais 15, on ne sait pas ce que c'est le spleen. Ok? Eh bien, je vais expliquer. C'est le seum du siècle précédent. Gros seum Baudelaire. Non, on va apprendre des choses. Hein. Je suis désolé, mais 15 ans, c'est vrai que peut-être il n'avait pas prévu d'être là. C'est peut-être un problème de babysitting, mais... Merci beaucoup d'être là. Il y aura du Baudelaire, il y aura des choses intéressantes, mais il y a un moment, et ça j'aime bien rassurer les jeunes, je vais m'asseoir ici, et pendant 15 minutes, c'est que des blagues de cul. Blagues de cul. Il faut intéresser les jeunes au spectacle vivant. Moi j'aime beaucoup Baudelaire, c'est pour ça que je voulais ouvrir par Baudelaire, et je pense sans me vanter que l'inverse n'aurait pas été vrai, c'est pas contre moi, c'est juste que Baudelaire détestait les Belges, vraie info, il a vécu à Bruxelles, je sais pas ce qu'on lui a fait, il a écrit des lettres à sa mère, il y a une lettre dans laquelle il dit « Dois-je remercier Dieu de m'avoir fait français ?» Virgule et non belge, point. Il faut en avoir croisé des Flamands pour arriver à penser un truc pareil. Il y a des Wallons dans la salle, ouais. Ça s'est entendu. Salut les Wallons. Ouais, merci d'être venu. Gros soutien. Non, peut-être certains ont reconnu le poème de Baudelaire, issu des Fleurs du Mal. Ça, tu dois lire, hein, à 15 ans, là, quand tu auras quelques années de plus. C'est un magnifique livre de poésie, des Fleurs du Mal. Et le poème s'intitule « Le mort joyeux ». Mort joyeux, qui est un oxymore. Je vais expliquer hein, pour le jeune de 15 ans ce que c'est qu'un oxymore. Et ça va arranger une grande partie du reste de la salle. Non, mais je déconne les Parisiens. Bien sûr, on sait ce que c'est. Bien sûr, quand même, on va expliquer. Donc, c'est en poésie. C'est quand on met deux noms l'un à côté de l'autre, qui sont l'opposé, mais qui racontent quelque chose. Mort et joyeux, évidemment que c'est l'opposé. Mais quand même, on a une image. On a un squelette qui danse, quelque chose. Une obscure clarté. Ça, c'est un oxymore. Une bière française. Un bon exemple. Les Wallons, hyper contents. Ouais, merci. Je ne sais pas si c'est une bonne idée que vous soyez là, mais restez, ne vous faites pas trop remarquer tout de même. D'ailleurs, ben là, je vais vous poser une question à tout le monde. Peut-être certains sont venus parce que vous avez aimé mon premier spectacle, Alex Vizorek est une œuvre d'art, par applaudissement, qui l'avait vu Allez, un quart de la salle, ça fait très plaisir, merci beaucoup. Pour les autres, j'explique, le premier spectacle s'appelait Alex Vizorek est une œuvre d'art, pas tant la prétention, c'est que... non, c'est juste que je voulais dire qu'on parlait d'art dans le spectacle, c'était une bonne thématique. Voilà, mon producteur, il m'avait dit, bon, c'est bien, parce que l'art, c'est une thématique forte, t'es pas très connu, les gens viendront peut-être aussi pour la thématique. Mais il m'a dit, si à un moment, tu veux passer un cap pour le prochain spectacle, là, il faut trouver une thématique peut-être plus universelle. Et il m'a dit, peut-être un peu plus folichonne. Et j'avais bien entendu universelle, et je me suis dit, eh ben, c'est une super thématique pour le prochain spectacle, pendant plus d'une heure et demie, on va parler d'un seul sujet, la mort. Alors, pas d'angoisse. Non, pas d'angoisse, je sais où je vais, évidemment. La réflexion de départ, c'était de me dire, au fond, les plus grands sont morts. Je me dis, ça, c'était pas con. Les plus grands sont morts, Mozart. Et oui, tout de suite, hein, y a pas eu le doute. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est mon public de France Inter, encore. Je le reconnais, bien sûr. Tu leur dis Mozart, tout de suite, ils savent, voilà, y a pas... Non, ça c'est très touchant, hein. Vous manquez parfois. Il y a des publics RTL parfois. Oui, oui. Ouais, salut, je le salue. Oh, ça fait... Merci RTL. Je suis désolé pour Mozart que vous la preniez comme ça. Oh, les France Inter. Quand je fais une blague sur RTL, on me vire pas la semaine d'après. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Hein, voilà. Balle au centre. Il y a les télématins peut-être, il y a les télématins. Oui, salut, oh là là, merci les télématins de sortir comme ça, si tard, le soir, dans une ville dangereuse, avec un corps défaillant qui vous lâche parfois. Merci d'être là, merci infiniment. Non, mais c'est ça, moi j'aime bien, parce qu'il y a tous mes publics qui sont là ce soir. Et donc, oui, juste petit prérequis, parce que c'est vrai qu'à la fin du premier spectacle, ça, moi j'aime bien discuter avec les gens. À la fin du premier spectacle, on discutait à la sortie, et les gens me disaient, Alex, ce spectacle sur l'art, ça nous a donné envie d'aller au musée. Ça m'a touché énormément. Pour celui-ci, il n'y a pas d'urgence à tester le projet, on est bien d'accord. Bon. On peut se lancer, mais on va commencer par une bonne nouvelle, parce que c'est vrai qu'au fond, la thématique peut vous paraître un peu dure. Et bien, la bonne nouvelle, elle va arriver. Regardez, on a mis énormément de moyens dans le décor. Poum ! Oh, ça fait rêver. Oh, tout de suite, un graphique. Et là, je vais faire un petit peu mon Olivier Véran en période Covid. Je vais vous expliquer avec beaucoup de certitude un graphique que je pige pas complètement moi-même. Sur l'évolution de l'espérance de vie à la naissance de 1740 à nos jours. Et ben c'est assez génial parce que qu'est-ce qu'on voit? Ça ne fait que monter les pics vers le bas. C'est les guerres, évidemment. Mais regardez, après les années 2000, notre jeune, là, 15 ans, toi, t'es né après les années 2000, ton espérance de vie à la naissance, c'est fou, elle est au-delà de 80. C'est dingue. En peu de temps, au fond, parce que 1750, ça nous ramène à... Voilà, il n'y a pas longtemps, hein, genre à l'échelle de l'humanité. Eh bien, l'espérance de vie à la naissance en 1750, elle est à peu près de 27 ans. 27 ans. Par applaudissement, qui aurait été vivant en 1750. Non mais je lis dans certains regards du doute. Je lis du doute. Il y a une envie de vivre, hein, qui est vraiment très nette. Mais j'ai un public de littéraire. Donc quand je donne un exercice chiffré, pourquoi tu nous demandes de travailler? Ça va aller, c'est bon, le seul exercice, c'est bon, j'ai compris où vous êtes, c'est moi qui bosse. C'était 27 ans et moins qu'il fallait applaudir, voilà, ça, vous avez la réponse, ça va vous détendre pour le reste de la soirée. Mais après ça monte, mais pas de manière aussi dingue, et c'est ça que je veux prouver aussi. Regardez, 1950, ça à l'échelle de notre vie, c'est pas grand chose, parce qu'il y a des gens qui y sont nés, on connaît tous quelqu'un qui est né en 1950 à peu près, et ben c'est le pic qui est remonté de la Deuxième Guerre mondiale. L'espérance de vie à la naissance en 1950, à peu près, elle est de 55 ans. 55 ans aujourd'hui, c'est rien. Hein. 55 ans aujourd'hui, je vais vous dire ce que c'est l'âge moyen des femmes avec qui je couche. Mes amis m'appellent l'antiquaire. Oh non, oh là, ça c'est pas bien. Ça c'est, alors là, non, eh ben, c'est sorti comme ça. Et eh ben j'ai voulu le rater. Oui, désolé, mais c'est parce que j'aime bien le dire. Parce que parfois dans la salle il y a des veuves. Et du coup, c'est gagnant. Alors, on n'a pas les chiffres avant parce qu'il n'y avait pas de recensement. Mais on peut s'imaginer, sans être des vedettes des mathématiques, que la courbe s'affaisse doucement, hein, mais elle doit descendre encore un peu. Voilà. Plaçons-nous là, 1450. 1450, c'est Léonard de Vinci. Léonard de Vinci. Et tout le monde dit aujourd'hui, attention, quand on parle de quelqu'un, il faut savoir séparer l'homme de l'artiste. Léonard de Vinci, il n'y a pas trop de doute sur l'artiste. Et l'homme, en fait, on sait des choses, il l'a même plutôt dit, il y a des écrits. Léonard de Vinci, il était pédophile. Voilà, il aimait bien les très jeunes. C'est pas bien, bien sûr, c'est pas bien, bien sûr. Mais est-ce que vraiment on peut lui reprocher de désirer des gens vivants? Enfin, c'est ça que je veux dire. Toujours la blague un peu de test. C'est la blague test. La blague test. Je situe le public. Non, en France, ça passe 5 à... En Belgique, en général, boum, ça rigole de dingue. Les blagues pédophiles, on joue à domicile. Mais... si vous aimez ça, il y en aura une autre. Alors... ça me rassure. Non, revenons un petit peu à la genèse de ce spectacle, après on entrera vraiment dans le vif du sujet, mais au fond, quand j'ai donné la thématique, plein de gens sont venus vers moi me dire « Alex, pourquoi toi? Pourquoi toi t'as envie de parler de ça? T'as l'air heureux, t'as la joie de vivre et tout ça ?» Je dis « Oui, mais on a tous un rapport à la mort. C'est la seule certitude qu'on a. C'est le seul point commun qu'on a tous sur cette planète. On sait qu'à un moment ça va s'arrêter. Voilà, c'est comme ça. » Et il y a des gens qui sont dans un rapport de peur, ce que je comprends tout à fait. Il y a des gens qui sont dans un rapport de déni. Moi, quand quelque chose m'angoisse, comme évidemment la mort, comme j'en pense un peu tout le monde, moi j'en ris. J'en ris parce que j'ai l'impression que ça me la met à distance. J'ai l'impression que je suis plus fort que les choses dont je ris. Le problème, c'est quand je vais à des funérailles. En arrivant, pour me détendre, parce que ça m'angoisse, je fais des blagounettes aux gens présents, mais je sens bien que le public n'est pas hyper réceptif. Et ça peut pas être la qualité de mes vannes, parce que je suis un professionnel, donc c'est... J'ai compris, c'est pas l'endroit, si vous voulez, pour tout le monde. Parce que c'est ça. Il n'y a pas de morale à ce spectacle. La seule morale, c'est chacun son deuil. Voilà, c'est comme ça. Chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut. Alors moi, je vais maintenant vers les gens qui, comme moi, ont envie de rire parce qu'on se soutient. Mais parce que ça nous aide. Ma mamie, elle adore rigoler. Sans doute, je tiens sans doute un petit peu ça d'elle quand elle vient aux funérailles. Alors, elle arrive tôt parce qu'elle aime bien être devant. Les personnes âgées, ils voient mieux, ils entendent mieux, je sais pas, je dis pas ça pour vous, mais elle arrive tôt, elle s'installe, elle met son sac parce qu'elle garde une place pour moi, elle sait qu'on aime bien être ensemble, et chaque fois je prends un air hyper solennel, comme ça j'arrive, je m'installe à côté d'elle, peut-être la prochaine fois, on sera encore mieux placé. Elle rigole à chaque fois, elle rigole à chaque fois. Les funérailles, quand on y pense, vu de l'extérieur, les funérailles, c'est quand même un endroit étrange où tout le monde vient dire du bien de quelqu'un qui aurait préféré l'entendre 15 jours avant. Et surtout, on n'a pas tous pu plaire à tout le monde. Chaque fois qu'on enterre quelqu'un, on a l'impression que c'est Gandhi qui part. Mais oui, mais non, c'est pas possible ça. Et donc, je prends un grand chiffre. Si dans votre vie, vous avez plu à 75% des gens que vous avez rencontrés, c'est énorme, hein, ça fait 3 sur 4. Eh bien, je pense qu'il faut garder ce quota aux funérailles. C'est-à-dire que s'il y a 4 personnes qui viennent parler à côté du cercueil, je pense que c'est important que les 3 premières viennent dire énormément de bien du défunt. Parce qu'on a envie d'entendre ça. Mais, pour qu'on ait une image plus complète, je pense, de la personne qui nous quitte, c'est important, je crois, d'avoir un petit quatrième. Alors voilà, c'est juste pour dire qu'on est quand même nombreux ici à penser que Patrice était un bel enculé et... que sa grande qualité, c'était de nous le rappeler régulièrement. Mais en cette journée émouvante, puis même pour nous, parce qu'il va nous manquer le con, on voudrait présenter nos sincères condoléances à Nadine, son épouse depuis toutes ces années, mais on s'en voudrait d'oublier Véronique. On croyait que c'était officiel. Bon, bah tu avais une qualité, la discrétion. Et on regretterait moins Patrice, on regretterait moins Patrice. Et lui, au fond, ça lui change pas grand-chose. Hein. Et ce qui m'a complètement convaincu que on avait le droit de... de décaler ce sujet, c'est un article de presse. Vous savez, moi j'aime bien parfois regarder la fin du journal parce que ça raconte quelque chose de notre époque. Article, c'est arrivé en Angleterre, regardez, plusieurs années après sa mort, une femme a réussi à surprendre son mari avec une blague. Moi je lis ça, je me dis je veux savoir. Et je vous explique ce qui se passe. La dame, elle avait une grave maladie. Elle se savait condamnée, elle savait qu'elle partirait. Et elle a demandé à son mari, s'il te plaît, juste pour que tu penses un peu à moi, pour que je sois encore un peu près de toi, est-ce que tu peux juste continuer à arroser ma plante verte préférée? Et c'est la plante de l'histoire qui a été photographiée par la fille, qui après l'a mis sur les réseaux, et puis les journaux se sont emparés de cette histoire. Et effectivement, il l'a fait, bien sûr, il l'a fait, tout de suite. Quand elle est décédée, il a arrosé cette plante, il faisait très attention à ce que la plante reste impeccable, il partait pas en vacances pour qu'arrive rien à cette plante. Très très beau. Et après 5 ans, c'est long hein, 5 ans, il éclate de rire tout seul devant la plante, parce qu'il se rend compte enfin qu'elle est en plastique. Et je trouve ça une histoire exceptionnelle, parce qu'il a dû rire en pensant à elle, c'est magnifique. Et elle, où qu'elle soit, elle a dû être fière de sa blague. Une blague dont la chute arrive 5 ans après, c'est le rêve de tous les comiques, c'est fantastique, fantastique. Et je trouve que c'est au-delà de drôle, c'est poétique. Et c'est au-delà de poétique, en fait, c'est humain. Quand je dis c'est humain, nous sommes les seuls sur cette planète à avoir ce rapport à la mort. Toutes les autres espèces ont un autre rapport à la mort. Les animaux, un petit cochon, si vous posez devant lui une chipolata, il n'y a pas une larme qui va couler. Hein. Il ne va pas la regarder en disant « t'as l'air tellement apaisé, maman ». Non. Et je mets ça en lien avec le fait que les animaux n'ont pas de maladie psychologique. Je ne dis pas que le deuil s'en est une, mais c'est intéressant la comparaison. Alors quand je dis les animaux n'ont pas de maladie psychologique, ce n'est pas complètement vrai. La seule possibilité pour qu'un animal développe une maladie psychologique, c'est croiser l'homme. Nous avons tous pu donner des angoisses, des dépressions à nos animaux de compagnie. Dans les cirques, ça peut arriver, dans les zoos, ça peut arriver. Dans la nature, ce n'est pas possible. Il y a des ours polaires, il n'y a jamais eu un ours bipolaire. Les amateurs de jeux de mots vont passer une merveilleuse soirée. Allez, revenons à la psychologie des animaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la savane, impossible de croiser une antilope en burn-out. Qui dit « j'en peux plus de mes gosses, je n'en peux plus ». J'ai l'impression que tous les jours, le point d'eau est de plus en plus loin. Si je croise un lion, je n'ai plus rien à foutre et je me jette dans ta gueule. Il n'y a pas un lion qui fait « j'aurais volontiers dépanné, mais depuis 2 semaines, je suis vegan ». Non, j'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'être vegan était une maladie psychologique. Je n'ai jamais dit ça. Et c'est bien simple, je ne dirais jamais ça à Paris intramuros. Mais... je sens que... dès qu'on s'écarte un peu, je crois qu'on peut, parce que quand je suis en tournée en province, dans ma loge, il y a du saucisson. Et je trouve ça formidable, parce qu'à Paris, il y a des graines. Et chaque fois, j'appelle le directeur de la salle, je dis « mais vous auriez dû me dire qu'en première partie, c'était un canari ». Et il me regarde, il dit « non, c'est pour vous, genre, on ne sait pas laquelle choisir ». Les animaux racontent quelque chose de nous. Donc, ce spectacle sur la mort, eh ben, je vais commencer par la vie et par la reproduction animale. Voilà, c'est important, on va attaquer. J'ai choisi 3 animaux très différents, cours de SVT, là, pour les jeunes. Je vais vous expliquer vraiment telle quelle la reproduction de 3 animaux et peut-être un petit peu la comparer aussi à la nôtre. Alors, le premier animal, il arrive, il est là, c'est un porc-épic. Alors, on a mis énormément de moyens dans les effets spéciaux. Pas d'inquiétude, c'est un faux, hein, attention, mais... je préfère le préciser. Donc, on est tous d'accord pour dire que la reproduction du porc-épic, c'est pas la levrette. 15 ans, ça va. 15 ans, ça va. Quand j'ai du 12, j'explique que c'est un instrument de jardin. Je dis, voilà, c'est une petite mouette, voilà, ça passe hyper bien. Après, on a eu des problèmes, s'il y a des parents qui sont allés chez Castorama la semaine d'après, et les gamins ont réclamé des levrettes dans les allées, moi, je peux pas être partout. Bon, je fais le mâle, c'est la femelle, comment ça se passe? Alors au départ, il la regarde, il la trouve mignonne, il se dit, je tente ma chance. Bon, jusque-là, c'est à peu près comme nous. Il il s'approche comme ça de la femelle porc-épic, se positionne devant, se soulève sur ses pattes arrière et il lui urine dessus. Golden shower de bienvenue. Non, on continue, 15 ans, ça parle pas anglais. Allez, Mais soyez pas choqués parce qu'elle le sait. Elle le sait que ça peut arriver. Peut-être même en a-t-elle envie. Mais à ce moment-là, on n'a pas l'info. Et c'est là que ça devient intéressant. La femelle porc-épic a deux solutions. Soit elle est d'accord. Elle aussi, elle a envie qu'il se passe un truc. Elle se retourne, elle soulève ses pics et ils y vont. Soit elle n'est pas d'accord. Et qu'est-ce qu'elle fait pour le faire comprendre? Elle se secoue. Et le mâle pige, et pas du tout vexé. Un peu emmerdé quand même. Je suis désolé, j'avais pas vu que tu avais mal de tête. Et voilà. Je t'ennuie pas plus. Mais comme moi je suis un peu excité, je vais aller pisser sur une autre. Et ça se passe hyper bien, hyper bien. Qu'est-ce que ça raconte de nous? Ça veut quand même dire que la notion de consentement, elle est plus grande chez le porc-épic que chez l'abbé Pierre. Le spectacle a évolué, hein. On a commencé par Nicolas Hulot, vous voyez. Hop, un petit virage par PPDA, parce que voilà, tout droit vers Depardieu, et puis tombé du ciel. Alors là, vraiment, comme ça, on l'a recueilli, on n'aura pas mieux, on n'aura pas mieux, je pense. Là, on est le goat, le goat. Allez, deuxième animal, attention, il est là, attention, il est là. Alors là, attention, on est au fin fond de l'océan. C'est la Baudroie des abysses. On est tous d'accord pour dire que